Bonjour les amis, et oui, hein, vous vous attendiez à l'indicatif que vous connaissez bien, celui de « au quotidien », mais « au quotidien est mort », mes amis. Oh, mais vive l'émission « Les voies de service ». Mon nom est Clotilde Sey, je suis votre première voix de service pour ce matin, mais pas la seule. Il va y en avoir pas mal qui vont se greffer à moi chaque jour, plein de petites têtes chercheuses qui vont fouiller pour vous, qui vont trouver tout ce qu'il y a de plus intéressant, de plus informatif, de plus instructif, de plus ludique dans l'actualité du jour et avec toutes les sources possibles et inimaginables. Alors quotidien, revue bien sûr, mais le net aussi, tout va y passer. Écoutez, c'est pas mêlant, on va être absolument incontournable. Si vous voulez tout savoir, vous allez être obligé de vous brancher sur Canal M tous les matins de 9h à midi avec bien sûr le bulletin du handicap animé comme tous les jours par Christiane Campagna à midi moins le quart. Mais ça, vous aviez déjà l'habitude. Alors, première demi-heure de cette émission-là, nous sommes le combien dont Mathieu Tessier, nous sommes le combien
Nous sommes le 8 septembre.
Et puis, est-ce qu'il y avait quelques anniversaires? Est-ce qu'il y a un effet?
Oui, Zacharie Richard est né un 8 septembre, oh! 1950.
Est-ce qu'on peut entendre un petit bout de Zacharie, ne serait-ce que pour lui souhaiter un bon anniversaire?
Bien,
est-ce qu'on en
fait.
A?
On a un grand classique.
Oh ben oui.
Dans le bas du Saint-Laurent, en dessous de l'eau, nage.
Zacharie Richard. Bonne fête, monsieur Zacharie Richard. Est-ce que c'est la fête de quelqu'un d'autre aujourd'hui?
C'est la fête de Léa Poule, qui est née en 1950.
En 1950, elle est née.
En 1950,
Léa,
effectivement. Okay. Il y a eu aussi la première diffusion du Star Trek en 1966.
Ah oui, oh, ben ça aussi, on doit avoir de la musique. Enfin, ça fait rien, on commencera
pas. Martin Freeman, qui est très connu maintenant parce qu'il a joué dans Le Hobbit et dans la série Sherlock Holmes.
Et ça, c'est l'acteur anglais.
Exact.
OK. Et puis, est-ce que c'est une journée spéciale aujourd'hui?
C'est la journée mondiale de la physiothérapie. La journée internationale de l'alphabétisation et la journée internationale de la paix.
Tout ça?
Eh oui,
pour
aujourd'hui.
Pour une même journée, pour un petit 8 septembre comme
pour
ça?
Pour un petit mardi. Ouf.
L'océan devient cimetière pour les baleines trépassées.
Puis, est-ce qu'il y avait autre chose pour aujourd'hui, mon petit Mathieu, en ce 8 septembre? Ou sinon, c'est pas grave, on va passer à un autre appel tout de suite. OK, alors on va passer à un autre appel. En première demi-heure de cette émission-là, je vais aller voir avec vous ce qui se dit dans la presse et dans Le Devoir. Et puis, ce sera toutes sortes de nouvelles. Et la nouvelle virale du jour, je vais rejoindre aux alentours de 9h10, 9h12, Christiane Campagna qui va se joindre à moi. Alors, on commence donc avec la presse ce matin, en ce 8 septembre 2015. Qu'est-ce qui s'est passé pour Eugénie Bouchard? On n'y comprend rien, une blessure à la tête. Il y aura une enquête et il y a des questions sans réponse. Elle serait tombée dans une pièce sombre après sa plus récente conférence de presse. On nous annonce à la une de la presse ce matin une chronique de Vincent Marissal, Québec, terre promise des conservateurs. Les troupes de Stephen Harper misent sur les circonscriptions de Louis-Saint-Laurent, Portneuf, Jacques-Cartier et Charlebourg, Haute-Saint-Charles-Orange depuis 2011. Et puis, une exclusivité pour le Journal de Montréal, la 10e saison de Kent Nagano avec l'OSM. Il y aura notamment une tournée majeure aux États-Unis. Hugo Dumas, dans les pages de la culture, parle des tournages de Madame Fabienne Larouche qui sont pour le moins mouvementés. Il y a des gens qui sont en dépression nerveuse, il y en a un qui a eu un accident, on a annoncé qu'il était mort alors qu'il n'est pas mort. Bon, il est dans le coma, cela dit, il est, comme dirait l'autre, c'est pas mort, mais c'est pas fort. C'est aussi à la une de la presse. La presse qui est à Berlin, où on nous dit, et c'est le gros titre, que l'avenir est en Allemagne. Rare pays européen à leur avoir ouvert les bras, l'Allemagne a accueilli hier des centaines de réfugiés syriens avec des cadeaux et des affiches de bienvenue. Et la presse est donc allée à leur rencontre. Et puis, il y a cette nouvelle qui nous fait pas plaisir. Il y a des gens qui se portent à la défense de Clara Hughes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est parce que l'athlète a admis avoir eu un test positif à l'éphédrine. Et là, tout le monde se dit, oh non, pas Clara Hughes. Et puis, je voudrais tout de suite revenir sur le gros titre ce matin à la une de la presse. Ce sont les chimiothérapies qui sont fatales. Même s'ils sauvent des vies, un traitement de chimiothérapie a tué plus de 100 Canadiens en 5 ans. De simples analyses sanguines auraient pourtant pu sauver la vie de la plupart d'entre eux. Et c'est la veuve d'une victime qui se désole de ce triste constat. Et c'est elle qui a décidé de sonner l'alarme. Je vais tout de suite aller voir dans la presse ce qui s'écrit sur le sujet. Mais tout d'abord, le petit clin d'œil de Stéphane Laporte. Qui urine dans une tasse se tasse dans l'urne. Attendez, il faut que je la relise, celle-ci. Qui urine dans une tasse se tasse dans l'urne. Alors, Marie-Claude Malbeuf de la presse dans Kissing, tout un dossier sur la chimiothérapie et ces traitements qui sont relativement courants. Par exemple, quelques chiffres, en 2014, 1728 Québécois ont été traités au 1 au 5 FU en 2014 dans les principaux hôpitaux montréalais. 643 patients l'ont été au Centre hospitalier universitaire de Québec et 891 patients se sont vus rembourser des ordonnances de capecitabine, autrement dit du Xeloda, par la RAMQ. Et là, on se demande, et c'est la femme d'un homme qui est mort, on va tout vous raconter là, combien de morts ça va prendre. Et justement, il y a une photo en légende à tout cela. C'est la photo de M. Paul Allard, qu'on voit d'ailleurs sourire avec sa femme à côté de lui. Cet homme-là s'est fait retirer une tumeur au côlon. Un homme qui débordait d'énergie, un mélomane, un inventeur, un ébéniste, bref, un type de 69 ans qui faisait du ski, qui faisait du tennis et tout ce qu'on veut. Aucune trace de métastase. Les ganglions sont intacts, il a 3 chances sur 4 d'en avoir fini avec le cancer. Mais pour diminuer encore très légèrement les risques de récidive de 5%, Paul Allard a accepté de subir une chimiothérapie par voie orale. Donc du 3 au 5 février 2011, il a avalé 5 comprimés de Xeloda, l'équivalent du 5-fluoracil, ou qu'on appelle plus communément le 5-FU, utilisé depuis des décennies par intraveineuse. On disait que c'était une chimio légère, de ne pas s'inquiéter, que Paul pourrait arrêter quand il voulait, a dit sa veuve, Madame Colette Bibeau. Mais le problème, c'est que ça l'a tué. Pour documenter la fin de son mari, cet ex-professeur de communication a pris des photos qui sont absolument insoutenables. Je les ai vues, ces photos-là, elles paraissent dans la presse plus. Elles ne paraissent pas dans la presse, mais dans la presse plus. Cet homme-là s'est littéralement empoisonné. Mais empoisonné. Sa peau s'est nécrosée, imaginez ça. Vous savez, on pouvait enlever des bouts de peau comme on le fait sur les gens qui sont brûlés vifs, par exemple. Il a donc été hospitalisé. Ses intestins, alors on ne nous en parle même plus. Sa bouche était noire comme du charbon. Je vous passe tous les détails, mais ils ont vécu les pires atrocités jusqu'à ce que finalement il soit placé en coma artificiel, surtout pour alléger ses souffrances. Et ce monsieur-là est décédé. Alors Madame Bibeau a mis 3 ans à s'en remettre jusqu'à ce qu'elle décide de porter plainte l'an dernier. Et le médecin examinateur du CHUS lui a assuré que Paul Allard n'est pas mort faute de soins adéquats, mais en raison d'une complication rare avec une progression inattendue, rapide et agressive. Eh oui, mais c'est pas le cancer tout d'un coup, c'est la médecine qui a amené ce monsieur, non pas jusqu'au seuil de la mort, mais carrément dans la tombe. 9 mois après, il y a une femme de Granby aussi qui est morte au même centre hospitalier à cause du même médicament. En 2007, c'est un ancien collègue de la professeure qui avait failli connaître le même sort. Avant d'entrer aux soins intensifs, je marchais sur des aiguilles et j'avais les paumes comme du foie de veau, raconte Bernard Chaput. Alors voilà où on en est en ce moment. Il y a donc cette bataille qui va certainement voir le jour grâce à cette femme-là, Madame Bibeau, dont, je vous le rappelle, le mari est décédé, non pas des suites du cancer, mais des suites d'ingestion de médicaments, de chimiothérapie. Et ça a pris quelques jours. Puis ce matin également dans la presse, on nous dit que le bloc passe en deuxième vitesse. Marie-Michel Sioui écrit du cordial « Parlons Québec » de la campagne de 2011. Le bloc québécois est passé hier au slogan « On a tout à gagner ». Une formule qui doit fouetter les troupes de Gilles Duceppe, encore loin dans les intentions de vote dans la province. Au terme du Conseil général électoral du parti hier à Montréal, le chef Gilles Duceppe a livré un discours qui cherchait surtout à alimenter la flamme souverainiste et à attaquer l'équipe de Thomas Mulcair en ce début de sixième semaine de campagne. D'ailleurs, je ne résiste pas tout de suite à aller dans les pages débat opinion pour vous faire la caricature, pour vous la décrire, la caricature de Chapleau. Du réveil après le long congé. Il reste 41 jours à la campagne électorale et là, c'est le réveil de Chapleau dont on voit la face par-dessus les draps et au-dessus de lui, ils ont tous les yeux grands ouverts, un petit peu comme ça, et on les voit tous ici. Madame May, Monsieur Duceppe, Monsieur Trudeau, Monsieur Mulcair et Monsieur Harper. Mon Dieu, j'ai failli oublier son nom. Incroyable! Et j'ai une autre voix de service qui vient de rentrer ici même dans mon studio. Bonjour Christiane, ça c'est ce qui annoncera la nouvelle virale du jour. Parce que vous, ce sera ça, votre truc. Tous les jours, on parle, et que ça jase, évidemment.
Des fois, il y en a une, puis des fois, il y en a plusieurs, ou il n'y en a pas de précise. Mais c'est intéressant que vous ayez déjà décrit une caricature, parce qu'il y a un peu ce phénomène-là sur Twitter. Des gens qui maîtrisent l'art de résumer en 140 caractères avec ironie des situations. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous ce matin, puis en même temps pour vous recommander ces comptes-là, des personnes qui maîtrisent cet art-là.
Je ne possède tellement pas.
Parce que c'est un peu semblable. Quitte à inventer une citation, il y a un mot-clic sur Twitter qui est inventé au Québec, qui s'appelle « citation rêvée ». C'est qu'on met, entre guillemets, on ajoute ça, on fait comme si un politicien, une personnalité publique, nous disait tout haut le fond de sa pensée.
Ah oui, OK.
On lui prête une citation qu'au fond, on se dit, il doit bien le penser dans le fond.
OK, c'est un peu ça. Très bien.
Mais sinon, voilà, j'ai découvert dernièrement le compte Twitter de l'humoriste Louis T. Et c'est vraiment, il est efficace, c'est un compte à suivre.
C'est un humoriste drôle, ce qui n'est pas forcément
oui, mais aussi,
un pléonasme.
qui commente beaucoup l'actualité. Mm-hmm. De toute évidence, il a écouté le même film que moi en fin de semaine, le film sur le joueur de baseball Jackie Robinson. Donc, il dit « T'écoutes un film sur le racisme dans les années 50, tu capotes un peu. Après, tu te demandes si ça a changé aujourd'hui, tu capotes encore plus. »
Ah oui, oh, certes, oui, c'est vrai. Elle est bonne. En 140 mots, elle est très bonne.
Voilà. Et puis, il y a Daniel Thibault aussi, un auteur qui est très, très politisé, très actif et ironique sur Twitter, qui a écrit à propos, quand Statistique Canada, la semaine dernière, a annoncé que nous étions officiellement en récession, il a dit, en tout cas, si Harper gagne ses élections, je peux te dire qu'il va privatiser ça, Statistique Canada.
Elle est très bonne.
Et il y a Mathieu Charlebois, dont le nom d'utilisateur Twitter est Ours Mathieu, qui commente le nouveau slogan du Bloc en disant « On a tout à gagner », un slogan qui permettra de tester la capacité des Québécois à utiliser le « A » et « A » accent grave correctement sur Twitter et Facebook.
Oui, parce qu'on risque même de voir des « E » accent grave aussi.
Voilà, parce qu'il y a les deux dans une courte c'est phrase.
Ça. Ou accent aigu. On verra les deux. Mais,
Oui, puis le gagné. Oui, oui, c'est ça. Ça aussi, c'est un piège.
C'est ça.
Et Mathieu Moreau, qui a écrit aussi, suite à la lettre de Vincent Marissal la semaine dernière, « Lucienne Robillard recommande de délocaliser Vincent Marissal en Sibérie pour économiser du temps de lecture.
» Elle est très bonne. Merci beaucoup, Christiane Campagne. On se retrouve un petit peu plus tard, peut-être, je ne me souviens plus. Oui, peut-être.
Pour le bulletin du handicap.
D'accord. Wow, ce matin, à plus tard, Christiane, ce matin, quelle une du devoir, le devoir qui fait son cinéma, plutôt c'est Rabagliati qui fait son cinéma avec son Paul à Québec, oui, à l'affiche, avec François Letourneau. D'ailleurs, on voit Paul qui attend, comment il s'appelle, François Letourneau, de pied ferme, il est sur un coin de rue, il est d'un côté, donc du coin et de l'autre, il y a François Letourneau qui arrive en sifflotant. Et là, il y a Paul de l'autre côté qui fait François Letourneau. Tu me paieras cher cette usurpation. Voilà le dessin qui fait la une du Devoir aujourd'hui. C'est historique. Après 15 ans d'existence sur papier, Paul, l'attachant personnage, imaginé par Michel Rabagliati, devient le tout premier héros québécois de bande dessinée à faire son entrée au cinéma avec Paul à Québec, adaptation sur grand écran par François Bouvier d'un roman graphique qui célèbre la vie en tutoyant la mort. La transposition est dévoilée ce soir à Montréal, évidemment le prétexte à une rencontre avec ce créateur comblé et le nouveau visage de son double. Bien sûr qu'il en sera question à cette émission « Les voies de service ». Il y aura bien sûr une page culturelle à cette émission aux alentours de 11h. Entre deux, je vais recevoir d'autres voies de service à partir de 9h30 ce matin qui viendront nous parler de toutes sortes de sujets qu'ils auront repérés pour nous. Mais d'abord, retour sur la une du Devoir, Énergie Est. Une consultation sans le promoteur. Je vais vous lire quelques bribes de ce papier de Jeanne Corriveau. Et puis l'immense défi de Duceppe. Malgré les sondages, le chef du Bloc québécois assure de ne pas être découragé, écrit Guillaume Bourgault-Côté. Alors, je vais donc vous lire cet article en page 1 des actualités ce matin dans Le Devoir. Cette consultation sans son promoteur pour Énergie Est. Jeanne Corriveau, qui écrit le projet de pipeline Énergie Est, fera bientôt l'objet d'une consultation publique par la Communauté métropolitaine de Montréal, autrement dit la CMM. Mais TransCanada n'entend pas participer à l'exercice. Le maire de Mascouche et membre de la Commission de l'environnement de la CMM, Guillaume Tremblay, voit dans l'absence de TransCanada un désaveu de la pétrolière à l'égard des préoccupations des citoyens. Le projet de pipeline soulève des préoccupations importantes pour la CMM. Le tracé préliminaire soumis par TransCanada contrevient au plan métropolitain d'aménagement et de développement adopté en décembre 2011, autrement dit le PMAD pour l'acronyme. Après de laborieuses négociations, le pipeline, faut le rappeler, traversera de nombreuses zones boisées protégées par le PMAD ainsi que des zones humides et des cours d'eau. Autrement dit, et bien sûr, Mme Corriveau le dit ici dans ce papier, les enjeux de sécurité sont aussi préoccupants pour les villes qui redoutent les conséquences d'une fuite de produits pétroliers sur leur territoire et dans les cours d'eau qui les alimentent en eau potable. La CMM n'a pas l'habitude de telles consultations, mais pour ce dossier controversé qui va donc affecter les villes, elle souhaite sonder la population afin de déterminer la position qu'elle défendra devant le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, et l'Office national de l'énergie, l'ONE, au cours des prochains mois. Rappelons aussi qu'il sera d'une longueur de 4600 km cet oléoduc que TransCanada souhaite construire, qui transportera, tenez-vous bien, 1,1 million de barils de pétrole brut par jour. par jour, de l'Alberta et de la Saskatchewan jusqu'au Québec et au Nouveau-Brunswick. Il traversera 10 municipalités de la CMM, parmi lesquelles Mirabel, Mascouche, Laval, Terrebonne et Montréal-Est. Alors, dans une lettre adressée à la CMM et dont le devoir a obtenu copie, TransCanada décline l'invitation de la CMM de participer à la consultation. Elle informe qu'elle ne déposera pas de mémoire pour l'occasion. Elle invoque l'objectif de la consultation, soit recueillir l'opinion des citoyens et des organisations du Grand Montréal pour expliquer sa décision. Restez là, je vais vous lire des bribes, du moins de larges extraits de la chronique de Jean-François Nadeau ce matin qui s'intitule « Douceur du miel ». C'est doux comme du miel, mais ça fait un petit peu de mal aussi par où ça passe au moment d'avaler. Alors voilà, douceur du miel. Il écrit, M. Jean-François Nadeau, debout devant lui, qui était à jamais couché, nous tentions de nous convaincre mutuellement qu'il vaut la peine de souffrir d'être vivant. En septembre, quand mon père est mort, un vieil oncle agriculteur a débarqué à la maison familiale. Il est entré, tête basse, aussi ému que nous qui étions déjà rassemblés là. Il tenait dans sa main calleuse un petit pot de miel. Alors il l'a tendu vers ma mère en disant simplement « C'est pour adoucir la douleur. » C'était l'or de ses abeilles, de son labeur. « J'ai trouvé, dit M. Nadeau, dans ce petit geste, beaucoup de grandeur, au point de me donner envie de devenir apiculteur, comme lui, comme Sherlock Holmes à l'âge de la retraite, pour la seule beauté des rayons de miel. « Tu produis du miel depuis longtemps, ai-je dit à mon oncle. « Mais non, j'étais encore petit et tu en produisais déjà. « Depuis quand as-tu un rucher ?»« Depuis l'été 1939. » Il bégaye un peu le monsieur. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour tout le monde, dit Jean-François Nadeau. Voudrais-tu me montrer comment il faut s'occuper des abeilles ? Il a fait signe que oui. Je l'en remercie aujourd'hui au-delà de sa propre mort. Pour fréquenter les abeilles, il faut un masque et des gants. Mon oncle n'en portait pas, il était parfaitement calme, pour ainsi dire en famille, avec ces insectes communautaires que Virgile loue, tout comme Platon, pour leur divine intelligence. Le divin existe, à tout le moins dans le miel. À Montréal, Les abeilles apparaissent fortes à la mode depuis que des citadins se sont mis en tête que le sort de l'agriculture se jouait dans le prix de la bonne conscience de chaque quartier. David Rieff, le fils de la regrettée Suzanne Zontag, brillant essayiste lui aussi, vient de faire paraître un livre dans lequel il donne matière à faire déchanter ceux qui envisagent de sauver le monde par une suite d'actions individuelles à l'échelle de leur ruelle. À lire « The Reproach of Hunger, il y a de quoi pleurer sur la faim que cultive notre monde pour en nourrir le désespoir ». Je reparlerai de ce livre bientôt, mais revenons pour l'instant aux abeilles. Le miel ne constitue pas pour rien depuis toujours le symbole fort des fruits sacrés du travail. Plusieurs banques populaires et des mouvements mutualistes aujourd'hui disparus nous montrent, du haut des frontons de leurs anciens édifices, des représentations de ruches et d'abeilles. Le miel symbolisait le fruit promis du travail, l'énergie, qui permettrait de nourrir une nouvelle génération. Nous sommes passés, dit Nadeau, d'une société solidaire, à un monde atomisé. Les objectifs communs sont désormais modelés selon les besoins d'une caste de rentiers préoccupés par un hédonisme qu'elle fait payer à tous. Le fétichisme marchand et le divertissement en tant qu'aspiration suprême de ces privilégiés ont conduit à la propagation des recettes que nous cuisinent tous ceux qui voient dans les mesures d'austérité une nécessité pour maintenir le cap sur de pareilles insignifiances. Autant ce régime est dur pour les pauvres, les étudiants et les travailleurs, autant il devient élastique pour ceux qui ont du pétrole dans les veines, des mines dans le cœur et un gros jacuzzi dans la tête. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, à l'occasion d'une entrevue accordée en marge de l'apparition de son nouveau livre, fait remarquer que les travailleurs sont désormais plus imposés que ceux qui, depuis leur chaise longue, spéculent toute la journée sur le miel des autres. Depuis 1954, les Québécois ont une seconde déclaration de revenus à remplir. Cette année-là, le fédéral avait accepté d'abaisser son taux d'imposition fixe. Duplessis, pour obscurantiste qu'il fût, avait d'instinct compris l'importance de lever des impôts pour assurer la souveraineté d'un État, ce que Mme Robillard et ses petits amis, convaincus que le miel ne peut être produit que par les fleurs du libre marché, apparaissent incapables de considérer. Nous voici, dit-il, pour conclure, à l'heure où ces gens veulent déposer les armes de l'État au pied des puissances privées, oubliant ainsi que non seulement les institutions publiques créent de la richesse, mais qu'elles sont aussi un moyen d'accomplir des fins sociales comme la justice, l'égalité et la liberté. Il y a urgence, dit M. Nadeau, pour que nous puissions redécouvrir ensemble la douceur du miel. Pardon, quelques petites nouvelles pour le devoir. Une rentrée toute en couleur, nous dit Marie-Andrée Chouinard, la directrice de l'information. On se la joue encore un petit peu avec un air de vacances, dit-elle. Il n'est pas dit que la rentrée doive se passer partout sur le mode de l'austérité. Alors donc, il y a ce numéro d'Allure spéciale où le pôle de Michel Rabagliati fait son cinéma. Et dès aujourd'hui et ensuite dans le devoir, ils vont dévoiler sous forme de feuilleton un chapitre du prochain livre de Rabagliati, Paul dans le Nord, et c'est un cadeau du devoir à nous, ses lecteurs. Mais c'est pas tout, dit-elle. Chaque nouveau départ de l'automne nous invite à revisiter certaines de nos manières de faire. Alors hop, un petit coup de balai, un brin de nouveauté à offrir. En culture, par exemple, un secteur auquel nous accordons une grande importance, la journaliste Odile Tremblay ajoute une chronique à celle du samedi et causera culture désormais tous les jeudis, selon l'inspiration du moment, pour le plus grand plaisir des adeptes de sa plume et de ses connaissances aiguisées du milieu culturel. Et puis, les amateurs de politique ne seront pas en reste. Hein. Longue ou pas, la campagne électorale qui a cours au Canada occupe très sérieusement les troupes depuis le début du mois d'août. Ils vont continuer, ils vont décortiquer les promesses, ils vont confronter les chefs à leurs déclarations et ils remettront en question les faits avancés. Et puis, l'équipe vous proposera aussi les citations et le chiffre du jour. Une heure juste qui vérifie et souligne le fossé qui existe parfois entre une déclaration et la réalité, en plus d'analystes des enjeux touchant le Québec, de reportages fouillés sur le terrain et des luttes chaudes à surveiller. Entre vous et nous subsistera le flot continu de cette information que vous voulez non pas seulement apprendre, mais surtout comprendre. Eh bien, dites donc, on est dans la même lignée hein, avec le devoir. Là, on est exactement sur la même ligne de départ. Je vous rappelle que c'est Clotilde Saye sur les ondes de Canal M et c'est la toute première émission du tout nouveau magazine de Canal M qui commence ce matin. Ça s'appelle Les Voix de Service. Pourquoi? Parce que je vais être entourée de plein de voix de service, donc voix VOIX, vous l'aurez compris, qui vont vous rendre le service de vous tenir au courant de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'écrit, non seulement dans les journaux, mais dans les revues, puis sur le net, partout. Toutes les sources seront bonnes, pourvu que ce soit instructif, drôle, sympathique ou informatif, bien évidemment. Restez là, je vais dire bonjour.
Les voix de service avec Clotilde Saye.
J'exerce dans les dîners, dans les bars et dans les fêtes, ça et là. Je veux pouvoir briller, qu'on m'écoute, qu'on m'accepte, qu'on voit que moi, j'ai un stock d'anecdotes, plus ou moins réelles, plus ou moins vécues. J'en ai tellement raconté, le vrai l'inventé, je sais plus. Quand j'ai bien joué mon rôle, captivé l'assistance, quand on me croit, on me regarde différemment, j'ai de l'importance. Pour une fois, j'embellis mon CV, j'ajoute quelques douceurs, je serai celui que vous voulez. Je suis un beau parleur, je suis un menteur. J'y étais, j'ai tout vu, j'ai tout lu et j'ai tout fait. J'étouffe encore parfois, mes mensonges trompent que moi. Placer le bon prénom au bon moment, c'est tout un art. Ça devient un prénom connu, il a grossi Gérard. Je peux aussi parler de savant, mais ça sert pas souvent. Je donne aux gens ce qu'ils veulent, du croustillant, du people. Si j'étais un super-héros, je serais sûrement mythomane. Sauf que le costume moulant, je crois que ça m'irait mal. J'ai des projets par millions sur des gros coups confidentiels. Entre deux avions, deux rendez-vous tombés du ciel. On s'appelle, j'y étais. J'ai tout vu, j'ai tout lu et j'ai tout fait. J'étouffe encore parfois, mes mensonges trompent que moi. ma place au soleil, un peu de lumière à la limite, pourquoi pas. Mon agenda est vide, si c'est la vie que je mérite, j'en veux pas. Qui n'a jamais triché, même par omission, dites-moi lequel, qu'il me traite de tous les noms, c'est comme ça que je m'appelle. J'y étais, j'ai tout vu, j'ai tout lu et j'ai tout fait. J'y étais, j'ai tout vu, j'ai tout lu, j'ai tout fait. J'ai tout fait, j'y étais.
Oui, Monsieur Benabar, tout vu, tout lu. Ça, ça aurait fait un bon titre aussi pour le. Ça aurait peut-être été pas mal. Pas pour les voies de service, mais pour. Parce que vous savez qu'un livre découvert est mort. Mais il y a une nouvelle émission littéraire. Il y a une nouvelle émission littéraire qui s'appelle Des livres plein les oreilles. Mais tout vu, tout vu.
Tout vu, tout lu, ça va bien.
Ça aurait été pas mal aussi, ça. Mais j'aime bien aussi, moi, les voix de service. Bonjour, André.
Bonjour,
André Etienne.
Bonjour,
Michel. Puis, êtes-vous nerveux comme je le suis? Parce que moi, j'ai.
C'est sûr que j'avais
un petit peu d'adrénaline, là, ce matin. J'ai chaud.
C'est surtout la circulation qui m'énerve. On est à une heure différente et ça paraît énormément.
Mais c'est mieux, non?
Non, ça se détériore beaucoup. Ah. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est la rentrée ce matin. Hein. C'est la vraie rentrée ce matin.
Oui,
parce que
vrai.
C'était la fête du travail, donc... avec des cônes partout, hein. C'est extraordinaire. Vive l'orange!
Bon, qu'est-ce que vous avez contre les cônes oranges?
Rien du tout.
je vous vois. Est-ce qu'on a créé une pâtisserie tout d'un coup? Il me semble que si j'étais pâtissier, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Le cône orange!
Oh non!
Moi, je ferais ça, je ferais une spécialité montréalaise.
Les cônes de Montréal.
On ne les aime pas tant que ça, les cônes oranges. Alors, je ne suis pas certaine
la
que
crème
ça,
glacée
ça ferait
un succès. Cône orange. Oh. Ça serait joli, non?
Non, mais on pourrait faire ça avec de la ratatouille. Avec de la ratatouille et avec de la citrouille, tiens. Parce que là,
carottes aussi, peut-être?
Pas exactement. En tout cas.
Bon. J'ai une très bonne recette de carottes et oranges. Carottes et oranges.
C'est vrai?
Oui.
Vous mettez ça de côté, s'il vous plaît, André. Mes amis, il y a deux choses dont vous adorez parler. Michel Audet, c'est de voyage.
Oui, entre autres choses.
Et André, c'est de science. Alors, mettez-nous l'eau à la bouche. De quoi il sera question, là?
Ah ben moi, j'ai une petite devinette à vous poser, déjà. Ça va vous laisser le temps d'y réfléchir. L'article que je voulais partager avec vous, il s'appelle « Chasser puis chasseur ». Alors, dites-moi à qui vous pensez, réfléchissez-y. C'est une question que je vous pose.
Chasser puis chasseur.
Est-ce qu'on doit répondre maintenant?
Maintenant?
Vous avez le temps de réfléchir. Plusieurs propositions sont acceptées. Il n'y a pas de problème. Allez-y.
Moi, je pense à l'amour. Celui qui chasse ou celui qui est chassé.
Que de romantisme.
Je ne sais pas.
Ça se rapproche de ça quelque part, mais pas tant que ça. Parce que la personne ou l'animal à laquelle je pense, c'est que il est capable d'amour. Tous les animaux, d'abord, sont capables d'amour.
Le koala.
Ah, d'accord, non, c'est pas ça. Réfléchissez encore.
C'est quoi?
Le lion.
Bon, la réponse, là, je vous la donne tout de suite, c'est l'homme. Puis c'est
vraiment...
Ah, bah
alors, j'avais raison.
Exactement, c'est ça. C'est l'homme. Puis c'est vraiment toute une histoire. C'est notre histoire, alors vous allez voir.
J'ai bien hâte. Et puis, Michel, où est-ce que vous nous
Entre autres choses, je vais vous promener dans les aéroports. Vous savez, c'est des endroits très particuliers. On a comparé les aéroports à des hôpitaux à certains moments. Oui, bien, vous savez, des attentes interminables, des sièges inconfortables, particulièrement des messages dans les aéroports et dans les hôpitaux. Hein.
Oui.
Le ventre,
Et là, c'est très stressant parce qu'on dit, est-ce que c'est moi qu'ils ont appelé?
Et la même chose à l'hôpital. Est-ce que c'est mon médecin qui vient de m'appeler? Donc, vous allez voir, est-ce que c'est peut-être en train de se transformer?
On espère. Donc, pour le mieux, pour les mieux, par exemple.
Est-ce que vous nous amenez en voyage aussi? Ou est-ce qu'on va rester dans l'aéroport?
Bien, vous allez voir, ça devient de plus en plus agréable d'être dans les aéroports.
Ah oui, hein? Donc, ah, mais non, mais ça, c'est sûr.
Oui.
Et puis, on ne s'en va pas en Éthiopie
ah,
aussi,
je vous amène faire un tour. Oui, c'est une peuplade. Et ça, c'est assez incroyable. Ah. Une peuplade qui existe encore, on n'aurait pas pensé avec la mondialisation, qui n'a vu aucune civilisation jusqu'à maintenant. Wow. Et vous allez voir que la façon dont ils vivent, particulièrement les enfants, c'est très, très particulier.
Wow!
Préparez-vous bien pour votre lecture, mon ami, mais je voudrais avant vous faire entendre un petit quelque chose que je vous ai prévu juste pour vous. Mais oui, mais juste pour Michel Audet. Ça vous a fait quoi d'avoir la tête transpercée par un Boeing?
Je commence à être habitué, franchement.
Alors, dans les aéroports, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, voilà, et c'est tiré d'un article de Sophie Fauron qui était dans la presse du 8 août. Ben, vous savez, il y a une époque pas très lointaine où l'attente à l'aéroport, ça voulait dire promenade sans but, siège inconfortable, ah, mauvais sandwich, ou si on avait de la chance d'être enfant, de courir avec les chariots à l'intérieur de l'aéroport.
Oui, j'ai ça d'ailleurs.
Oui, en essayant de pas frapper. Oui.
Y a-t-il un parent derrière les mômes, s'il vous plaît?
Oui, on dirait qu'une fois rendu à l'aéroport, les enfants sont...
Oui, nous aussi d'ailleurs, alors on peut les comprendre.
Il
y a quelque chose quand même d'excitant.
Assiste aujourd'hui à ce qu'on peut appeler une révolution dans les aéroports du monde entier. Mm-hmm. Les carrefours, autrefois stériles, ennuyants, se transforment parfois presque en centre d'amusement, mm-hmm, où on aurait envie de passer des heures. Et souvent, c'est un vecteur de stress. Serait-il en train de devenir agréable? Mm-hmm. En plus des restaurants qui s'améliorent, se diversifient, des aires de détente confortables, une foule d'activités sont maintenant proposées aux voyageurs. Et je vous donne quelques exemples. Alors, que ce soit pour représenter la vie culturelle de la ville, pour embellir les nombreux espaces ouverts ou donner une identité propre à l'endroit, de nombreux aéroports misent particulièrement sur l'art public.
Ça veut dire qu'il y a des cinémas maintenant dans les aéroports? C'est plutôt de niaiser pendant une heure et demie,
un peu de
on peut
tout.
Peut-être aller voir
oui,
un film.
Oui, tout à fait. Il y a même maintenant, j'en parlais je pense qu'une semaine précédente, des douches et des endroits pour dormir.
Ah oui.
Véritablement, pour dormir. Et je vous donne des exemples. Okay. Le musée de l'aéroport de San Francisco, c'est devenu une référence en matière d'intégration d'œuvres d'art dans les espaces publics depuis 1980. Le San Francisco Museum présente des expositions dans 25 galeries qui sont dispersées dans les différents terminaux de son aérogare. Ben, c'est une belle façon de refléter l'importance qu'accorde San Francisco aux arts, à la culture. Ah, ouais. Amsterdam. L'aéroport assez
l'étoile,
extraordinaire, hein? Schiphol. Ben oui. Et si vous n'avez pas eu le temps de visiter le fameux musée nouvellement rénové, j'excuse mon accent, Rijksmuseum, vous pourrez vous rattraper à l'aéroport. Le musée prête en effet à sa succursale de l'aéroport quelques tableaux de grands peintres hollandais durant toute l'année. Alors, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire directement à l'aéroport. Et vous savez aussi qu'on peut rapporter des tulipes d'Amsterdam. Et c'est accepté lorsque vous arrivez
en oignon ou la fleur?
Non, on l'a préparé, c'est ça, exactement.
Ça.
Oui,
en
fleur. Donc, au lieu, lorsque vous arrivez à l'aéroport, plutôt que ce soit les gens qui vous reçoivent avec des fleurs, vous apportez des fleurs.
Oui, mais alors dis donc...
C'est différent, hein?
Et on n'est plus obligé de cocher sur la petite fiche qu'on doit remplir, je rapporte des
plantes. Il doit y avoir un
plantes.
Son particulier qui doit être indiqué sur le...
Mais question, quand on sait comment on est entassé comme des sardines, comment on entasse des tulipes et comment on fait pour qu'elles arrivent?
Comment
on arrive et il y a juste la tige.
Ouais. Vous avez aussi Heathrow, qui est aussi un aéroport très connu. Il possède également une galerie d'art qui est ouverte 365 jours par année et qui promeut autant des artistes anglais de renom que ceux de la relève. Et ça s'appelle le T5 Art Gallery. Ça se veut un havre de détente et de beauté dans un brouhaha. On sait ce que c'est, brouhaha, l'aéroport. À Mumbai aussi, Mumbai, ou si vous préférez Bombay, c'est ni plus ni moins que le plus grand programme d'art public du pays. Pas moins de 7000 œuvres tapissent les 3 km de couloirs de l'aéroport. 7000 œuvres.
C'est quelque chose, hein?
Et 3 km. Des œuvres anciennes, comme contemporaines, qui célèbrent aussi l'art indien, avec 40 millions de visiteurs par année. L'aéroport de Mumbai, on pourrait presque dire que c'est le musée le plus achalandé du monde.
Ah ben oui, c'est vrai.
Ouais.
Impressionnant, hein? Et voilà quelque chose d'original. Pourquoi ne pas avoir pensé plutôt à placer des bicyclettes stationnaires directement dans les rapports afin de se dégourdir les gens?
Est-ce qu'il y en a qui y ont pensé déjà?
Oui, vous aviez plusieurs aéroports qui ont imité l'initiative de Philadelphie, qui a installé une trentaine de bicyclettes. Et encore mieux, l'expérience devient encore plus intéressante quand on peut pédaler et recharger ses appareils mobiles.
Je l'ai vu à Paris, à la gare Saint-Lazare.
Exactement.
Ah oui, la gare Saint-Lazare, t'as plusieurs stations, puis ils sont là à pédaler. Il faisait d'ailleurs 42 degrés ce jour-là, tu dis, ils sont malades.
Vous pourrez recharger, votre téléphone en une trentaine de minutes en pédalant, normalement.
Ouais,
et ça, sans vous éreinter. Alors, vous l'avez à Bruxelles, entre autres choses, à Amsterdam, à Paris, Charles de Gaulle aussi.
Ah, aussi, c'est, hein?
On l'a maintenant. Et chez nous, à Calgary, il ne faut pas oublier non plus.
Ah, d'accord.
Mais à Montréal, non.
On aimerait ça l'avoir à Montréal aussi.
En plus de concerts classiques, présentés plusieurs fois par jour, des jardins, du cinéma, du spa, du casino, on peut sauter dans une navette et profiter d'un terrain de golf à quelques minutes de l'aéroport Incheon à Séoul.
Oui, alors, je rentre l'avion, c'est sûr.
C'est assez simple. Vous n'aviez pas suffisamment de temps, ben vous pouvez montrer vos prouesses sur la patinoire intérieure de l'aéroport.
Et nous, les patins.
Une véritable patinoire, ça s'appelle l'Ice Forest. C'est joli, hein? La forêt de glace. C'est situé directement à l'aéroport. C'est un concept absolument unique. Et la glace est en fait une surface synthétique qui ressemble davantage à du plastique qu'à de l'eau glacée. Donc, vous n'allez pas mouiller vos pantalons
sûr qu'il loue les patins.
Est-ce que ça fait moins mal quand on tombe?
Ça peut accueillir jusqu'à 150 patineurs. Et c'est ouvert de 10h à 20h à tous les jours. Saviez-vous que l'aéroport de Montréal propose depuis peu son programme Lire vous transporte? Vous pouvez télécharger tout à fait gratuitement 35 livres d'auteurs québécois.
Ah, ça, c'est bien.
Et une fois arrivé à l'aéroport, en collaboration avec l'Association des libraires du Québec et la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Bravo.
Donc,
c'est une très
bonne idée, hein? Oui. Donc, vous voyez que, véritablement, les aéroports sont en train de se transformer de façon intéressante.
Merci beaucoup, Michel. On va parler de science, de chasseurs et de chassés dans quelques instants. Restez là. Alors, elle nous a posé une question tantôt. Elle nous a dit, si je vous dis chasseur et chassé, à quoi vous pensez? Ça n'a rien à voir avec la chasse.
Notre histoire.
Alors,
je commence.
André.
L'histoire, elle commence il y a très, très longtemps. 3 ou 4 millions d'années, ça vous dit quelque chose?
Oui, quand même.
L'homme, à ce moment-là, il s'appelait Anthropopithèque.
Oui.
Si vous voyez les photos, par exemple, il ressemble un peu à un chimpanzé, mais ce n'est pas grave. Bon, à ce moment-là, il est très lent et fragile. Et ça se justifie parce qu'on a trouvé des traces de dents qui sont laissés sur des ossements fossilisés. Donc, ils sont fragiles, ils n'ont pas de griffes, pas de crocs. Et donc, c'était juste des proies faciles pour des grands prédateurs qui régnaient à l'époque sur l'Afrique. On se rapproche, 2 millions d'années simplement. À notre ancêtre, à ce moment-là, il s'appelle maintenant Homo ergaster.
Excellent exercice d'articulation.
Exactement. Il est passé du camp des proies à celui d'animaux prédateurs. Parce qu'à cette époque, il y a une série de traits physiques ou sociaux qui nous a transformés de qui a fait de nous des bêtes sauvages, des bêtes sauvages, et on est devenus les bêtes les plus dangereuses. Ça, c'est, ça n'a pas changé hein, depuis des millions d'années.
Oui, vous me l'enlevez de la bouche.
Ah ben d'accord. Bon, maintenant, on se situe, on a eu les Jeux panaméricains à Toronto, et le public est là, mais il ignore une chose, c'est qu'on a deux disciplines qui permettent à l'être humain de dominer le monde. Ce sont le marathon et le lancer de javelot. Comment ça?
Oui, comment ça?
Oui, c'est ça. Ben parce que ça fait, dans l'ensemble du monde animal, l'homme devient le seul animal à pouvoir courir aussi longtemps, puisqu'il peut courir un marathon, et à lancer des projectiles avec force et précision, puisque le javelot a démontré ça. Alors, comment a pu se faire cette transformation?
Oui.
D'abord, l'endurance à la course. C'est la bipédie. Quand elle a été acquise, elle nous a conféré des genoux larges, robustes, des muscles fessiers, n'est-ce pas, proéminents, des orteils courts qui sont parfaits pour courir.
Bon, ça, pour les muscles fessiers, ça dépend de l'individu. Quoi.
Mais quand même, ça aide quand même pour courir. Alors, on n'est pas très rapide au sprint, d'accord, mais aucun animal, même pas un cheval, ne peut courir un marathon. C'est incroyable, hein, ça, hein? Et l'avantage, c'est que pour poursuivre un animal pendant 2 heures, ça permet de l'épuiser et ça permet de faciliter sa mise à mort.
Ah, aucun animal ne peut courir plus de 2 heures.
Ah, même 2 heures. C'était écrit dans l'article. J'ai oublié de vous dire que
oui,
c'était d'un article de Québec Science,
okay.
Qui a été du mois d'août-septembre et qui a été écrit par Joël Leblanc.
Okay.
Ce qui est écrit dans l'article, c'est ça. Ils disent que même un cheval ne peut pas courir un marathon, c'est-à-dire... C'est quand même très long, un marathon.
Ah, oui,
hein.
Oui, on va
42
kilomètres. Alors, l'autre arme secrète, c'était donc son bras. Parce que quand il a cessé de grimper aux arbres, son épaule a changé d'orientation et lui a permis d'effectuer des mouvements puissants de lancer. Pour mémoire, avez-vous une idée? Le lanceur de baseball, à quelle vitesse il peut décocher une balle?
Ah non, ça, je ne sais pas du
pas
tout.
Loin mais... 200, pas loin de 200 km/h.
Pas loin, exactement. 170 km/h.
Ouais.
Et il n'y a aucune articulation chez les animaux qui permet un lancer aussi rapide. Bon, donc cette habileté, ça va servir à nos ancêtres. Hein. Donc, deux aptitudes à laquelle vont s'ajouter la cohésion sociale et la communication. Parce qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir concocter des plans d'attaque pour lutter contre ces prédateurs.
Mais est-ce qu'on a des preuves de cette évolution-là?
Oui, on a des preuves de cette évolution-là, parce que, par exemple, ce qu'on a pu observer, ou ce que les chercheurs ont pu observer, c'est que nous n'avons plus les molaires larges et plates de notre ancêtre Australopithèque.
Je l'ai raté.
Donc, on n'a plus ces molaires-là. Ben, notre cage thoracique a évolué. D'un entonnoir renversé qui laisse beaucoup de place à un long intestin qui était nécessaire à la digestion des végétaux, on passe à une forme de baril.
Okay.
Alors, on a aussi un gros cerveau qui est passé de 400 cm3 à 1400 cm3. Bon, ça, c'est un volume qui n'a jamais été atteint, qui n'aurait jamais été atteint sans apport de viande. Parce que dans l'article, ce qui est intéressant, c'est que, presque en conclusion, il dit que sans le changement de régime alimentaire, donc qui devient carné, l'homme n'aurait pas pu prendre l'emprise sur les animaux qu'il a prise par la suite. Parce que donc, à ce moment-là, le processus s'est amplifié. Plus de viande, on a un cerveau plus gros, qui permet de penser de nouvelles façons, qui permet de produire des nouveaux outils, des nouvelles techniques, partager des idées. Et c'est donc la chasse qui a fait l'homme et son cerveau. C'est indiscutable, hein, il semble. C'est la viande qui a fait partie des repas et qui a modifié.
Okay.
Bon,
ouais.
Les chercheurs, ils se posaient quand même des questions. Ils ont des drôles d'idées des fois, mais c'était ça du bon sens. Ils se demandaient si l'homme était à l'époque un chasseur ou un charognard. Et il y a une étude qui a mis en évidence que les proies qui ont été tuées par l'homme appartenaient à des animaux dans la force de l'âge. Et ça ne ressemble pas aux stratégies des animaux. Hein. Les animaux, en principe, ils vont aller s'attaquer aux plus faibles d'un groupe qui lorgne là.
Ceux qui sont malades, manger. Ceux qui sont malades, particulièrement.
Voilà, exactement. Et en plus, au Kenya, je pensais au long intestin.
Oui, c'est ça.
Au Kenya, on a retrouvé des milliers d'outils, de pierres, d'os, qui portent peu de traces maintenant de grands prédateurs. Au début, je vous disais, hein, 3-4 millions d'années, on a trouvé des ossements avec vraiment des traces de prédateurs. Hein. Donc, la révolution était en marche. Et nos ancêtres ont lancé donc une forte compétition et ils sont sortis gagnants. Bon, ces changements, bien sûr, ont certainement eu des conséquences sur tout l'écosystème et peut-être même plus qu'on le pense, car en poursuivant les mêmes proies que les grands félins et les autres carnivores, ils ont créé une espèce de compétition. Et donc, les félins, ils avaient, par exemple, moins de possibilités pour manger. Mm-hmm. Donc, la race, ou disons le nombre, diminuait. Donc, voilà, certains chercheurs disent même que le déclin des carnivores pourrait être dû à des changements climatiques aussi. Oui. On voit ça maintenant, hein, déjà. Hein. Donc, voilà, l'homme a inventé la chasse. La chasse a modelé l'homme en retour. Nous sommes donc faits pour manger et digérer de la viande. Alors, c'est une perspective sur très long terme et difficile quand même de ne pas sourire devant le mouvement tout récent à l'échelle évolutive de retour à la végétation, à l'alimentation végétarienne.
C'est ça, parce qu'il y a peut-être des gens finalement qui se détruisent plus qu'ils ne le pensent. Mais cela dit, on sait qu'il y a des raisons parfois
médicales
ou même... ou simplement on pense à l'abattage des animaux. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que je ne voudrais plus jamais manger un poulet de ma vie. Puis c'est comme ça qu'ils deviennent végétariens aussi.
Ben voilà, c'est ça.
On a un petit peu, oui. Oui, on va y aller pour quelques brèves, mon ami. Alors moi, j'en ai une pour vous, tiens. J'ai trouvé ça dans le Journal de Montréal ce matin. C'est un équipage d'un voilier qui s'appelle le Rotter Sand qui a fait une étrange rencontre à la fin du mois d'août. C'est au large de la Gaspésie. Figurez-vous, André et Michel, qu'ils ont trouvé une énorme tête de poisson sans queue. Et ce poisson sans queue, c'est un poisson qu'on n'avait jamais vu du tout dans les eaux du Saint-Laurent. Et pour cause, parce que c'est un poisson, le poisson sans queue. Le poisson dont je vais vous parler, il ne vit que dans des eaux très chaudes parce qu'il se nourrit de méduses. Et là on a trouvé cette chose-là. Puis attendez, c'est énorme, hein. Les femelles peuvent produire, imaginez la grosseur de la chose, jusqu'à 300 millions d'œufs. C'est plus que n'importe quel autre vertébré. On l'appelle comment d'ailleurs ce poisson-là? Je l'avais vu quelque part, je vais vous retrouver ça. Ça s'appelle le môle. Est-ce que vous connaissez ça?
Non,
M-O, accent circonflexe, non. L-E. C'est très très laid. Ça a vraiment... La gueule est toute ronde. Et en plus, il a une nageoire en haut qui est faite comme la nageoire d'un requin. Moralité?
Sur la tête? Et c'est énorme, ça?
Ah, c'est énorme. Ça peut peser jusqu'à une tonne.
Oh, wow.
Adulte. Eh bien, voilà.
Et donc, c'est nouveau, c'est une découverte.
Oui, absolument. Ah, et apparemment, c'est la nourriture qui l'aurait attiré. Et alors, ce qui peut faire peur, c'est qu'avec cette nageoire dorsale-là, on se dit, merde, un requin. La seule chose qui le différencie du requin, c'est le fait que le môle nage en zigzagant, alors que le requin, il y va. Mais c'est vraiment très, très moche.
Est-ce qu'il va vite, cet animal-là?
Oui, absolument. C'est vraiment, écoutez, c'est fait comme une torpille, à peu près. Alors, imaginez-vous quand ça fonce sur vous, ça.
On avait trouvé un poisson il y a un certain nombre d'années qu'on croyait disparu, totalement disparu.
Ah ouais.
Oui, c'est un sélacanthe.
Ah oui, j'ai vu un reportage là-dessus. C'est assez extraordinaire. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il est gros? Il peut mesurer jusqu'à presque 2 mètres de long.
Ah oui?
2 mètres de long en pied. J'ai toujours beaucoup de mal avec ça.
Un peu plus de 6 pieds.
Oui, c'est ça, mais exactement.
Et une tonne.
Oui, une tonne. Ah, alors, c'est belle bête.
C'est un ballon, quoi.
C'est un, exactement.
C'est la concurrence
à nos baleines. Et ça se mange. Et ça se mange.
Puis est-ce qu'on dit quel goût ça a?
Une petite brève, Michel, André?
Ben, je peux vous dire quelque chose encore sur les aéroports. Il y en a un particulier à Taipei. Et l'aéroport se préoccupe des personnes vieillissantes dès l'arrivée et il offre des lunettes de lecture pour remplir les cartes d'immigration.
Quelle bonne idée!
C'est particulier, hein?
C'est une bonne idée.
Moi, j'en ai une autre. C'est une information, ça va vous surprendre peut-être. Du Viagra pour lutter contre le paludisme?
Ah oui?
Ouais.
C'est intéressant. Ça.
Bon, le paludisme, vous savez, c'est une maladie quand même parasitaire qui touche,
oui,
tenez-vous bien, 124 à 283 millions de personnes.
Oui, mais le Viagra, on sait ce que c'est aussi. On,
ouais,
est là, on se
ça demande. Touche peut-être le même nombre de personnes. le nombre de décès, quand même, c'est entre, disons, 400 000 et 750 000 mm-hmm. personnes de par an. C'est l'OMS qui le dit. Et puis, le vecteur du paludisme, c'est évidemment un moustique. Il passe donc le vecteur d'une personne infectée à une autre par l'intermédiaire d'un moustique à l'occasion d'une piqûre. Le moustique transmet ensuite le parasite par sa salive ou le récupère dans le sang de la piqûre. Mais si on arrive à entraver cette transmission, l'épidémie peut être évitée. Et c'est en cherchant à enrayer la transmission du parasite, que la molécule de Viagra est considérée comme intéressante, puisqu'elle permettrait d'empêcher le parasite d'être récupéré par un moustique et par la personne infectée. Bon espoir, n'est-ce pas?
Ben oui, ben oui, ben oui, merci beaucoup.
Le moustique s'appelle l'Anopheles, d'ailleurs.
Oh, ben, moustique.
Oh, alors, mon Dieu, alors, c'est voilà. Moi qui suis supposé parler de science, Michel.
Alors là, nous avons Monsieur Trivial Poursuite. Vous restez avec moi?
Oui, bien sûr.
Eh bien, ça tombe bien.
Oui.
Et vous écoutez surtout les voix de service, c'est l'émission numéro 1, Clotilde Seille, qui en est une voix de service, accompagnée par deux autres voix de service aujourd'hui, Michel Audet, André Etienne. On poursuit. Qui y va? Qui se lance?
Je peux y aller avec les enfants bergers.
OK, c'est sûr.
Ah, ben, c'est assez particulier, c'est ça. En fait, c'est tiré de Paris Match, et du 13 août, par Aurélie Raya. Il y a un photographe de Paris Match qui s'est présenté à cet endroit-là pour prendre des photos. Et ces gens-là détestent se faire photographier. Et c'est pas ce qu'on a dit souvent, là. Ça enlève leur âme. Non, ça n'a rien à voir. Ils se fichent de la qualité de la photo. C'est pas un problème. C'est que le chef qui mesure 2 mètres, c'est des gens très élancés, il se sent réduit à 15 centimètres lorsqu'il voit sa photo.
C'est vrai?
Il peut pas comprendre qu'il soit réduit de cette façon-là. Alors, ces gens-là vivent sans miroir, se connaissent très peu, et ils ont l'impression qu'on se moque d'eux à ce moment-là. Et ils s'appellent les Surmas ou Souris. Ils sont originaires d'un coin de la vallée du Rift.
Excuse-moi, comment vous l'écrivez, ce Surmas?
S-U-R-M-A-S.
Ah, bêtement.
Surmas.
Surmas,
oui,
okay.
C'est ça. Ils sont originaires de la vallée du Rift, que mm-hmm. vous connaissez bien, en Éthiopie. Et c'est au carrefour du Soudan et du Kenya. Il constitue une des très nombreuses tribus de la vallée de l'Omo, qui est une rivière longue de 760 kilomètres. C'est tellement reculé qu'il faut 3 jours en 4x4 à partir de la capitale Addis Abeba, puis des heures de marche avant d'atteindre cet endroit-là. Lorsqu'on les voit, on est saisi par leurs peintures corporelles, qui sont magnifiques et inédites, dignes du modernisme, en fait. Ils ont une existence si proche de la nature, c'est absolument incroyable. Ils seraient 25 000, hein?
Excusez-moi, est-ce qu'il y a des photos de ce que vous êtes en train de dire?
Oui.
Vous les voyez? Parce que quand vous parlez de peinture, c'est une seule? Est-ce que c'est monochrome ou c'est bariolé?
En fait, ils commencent par simplement des dessins mm-hmm. qui sont très, très, très stylisés. Et okay. par la suite, lorsqu'ils deviennent adultes, c'est des marques, vraiment,
okay,
comme
okay.
un tatouage.
OK.
Mm-hmm.
OK.
Assez particulier, hein? Et il serait 25 000 et avec près de 200 000 vaches et des veaux. Parce que c'est là un trésor.
25 000 pour 200 000 vaches? Wow.
L'homme n'a qu'une seule ambition pour sa progéniture, c'est qu'elle s'occupe du bétail.
Ah ben oui.
C'est ça. L'adulte amène son gamin vers l'âge de 5 ans parmi les animaux pour qu'il s'habitue. Le bovin laisse le petit s'approcher, l'enlacer, se coucher sur son dos, s'amuser. Et même les enfants se nourrissent à même le pied de la vache. Et régurgitent dans la gueule de leur chien.
Ah, alors, de leur chien, attendez.
De leur chien.
Attendez, donc ils vont au pied de la vache parce que là
oui, ils gardent le lait dans leur bouche et ils régurgitent et l'envoient à leur chien. Oh. C'est une marque d'amitié entre les deux. Ah, c'est très spécial, très
L'enfant
particulier.
L'enfant est le lien entre le bovin et le chien.
Oui.
Ah, oui.
OK.
Oui, oui. Et en fait, cette proximité-là, apparemment, tient à leur odeur. Parce qu'ils ne portent pas de vêtements et ils doivent sentir comme le bébé des animaux, comme les veaux, par exemple. Mais seulement les garçons qui s'occupent des bovins, des animaux. Les filles restent avec leur mère au village. Le jeune débute son initiation par des allers-retours durant plusieurs mois. Il fait des allers-retours entre sa mère et le troupeau et parfois jusqu'à 60 kilomètres à l'extérieur. Alors, pour éloigner les moustiques et les tiques, qui, évidemment, il y en a partout, ils se recouvrent de cendres. Et l'école des gamins, c'est guider, sortir de l'enclos, mettre l'abri, détacher, rattacher les colliers de ses futurs bovins. Donc, sa vie, c'est ça, exactement. Il se débrouille pour ne pas les tuer lorsqu'il les transperce. Il transperce leur cou d'une flèche dans la veine jugulaire pour boire leur sang.
Ah oui.
Parce qu'en fait, ils se nourrissent principalement de lait et de sang, et certains légumes aussi.
Mais je me demande si c'est pas cette tribu-là, c'en est une qui lui ressemble beaucoup. Vous savez, à la merveilleuse émission qu'il y a sur TV5 et qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue, où ils s'en vont comme ça dans des tribus très très élevées. Parce que j'en ai vu une ou deux qui se passaient en Éthiopie et entre autres, ils leur faisaient boire du sang. Et je ne sais plus quelle était l'actrice qui était là parce qu'ils prennent toujours quelqu'un entre guillemets de plus ou moins connu là. Et donc ils lui ont présenté un bol de sang. Il lui disait qu'elle n'était pas obligée. Hein. Il disait... Il ne forçait pas, puis... mais finalement, elle y a goûté. Bon, elle a trouvé ça épouvantable, mais c'est vrai que c'est leur façon de se nourrir, entre autres, de faire, je veux dire, avec tous les...
Oui. Mais vous savez, ils ont une seule obsession, hein, c'est posséder toujours plus de bêtes.
Ah ben oui.
Les jeunes rêvent d'immenses troupeaux. Il y a quelque chose de malheureux qui est un rouet du 20e siècle qui s'est émissé depuis deux décennies dans ce décor particulier. Ouais. Et je vous le donne en mille, hein, c'est la Kalachnikov. Ah. C'est l'arme à feu à infiltrer la culture au point de modifier l'écosystème alentour. Parce que les éléphants, les girafes sont en train de disparaître. Et ces objets qui sèment la destruction en quelques secondes, ça provient d'Afghanistan, par le biais de la Somalie et le Soudan. Les Soudanais armés, affamés par la guerre civile, ils traversent la frontière pour voler le bétail.
Ouais.
Ah, donc, les survivants, ils se défendent. Hein, ils n'ont pas peur de mourir ni d'éliminer un rival. Alors, évidemment, les AK-47, ça autonomise les jeunes, ils échappent au contrôle des anciens et l'alcool vient s'y mêler aussi. Et il y a une autre chose aussi qui est apparue ou qui a tenté d'apparaître, l'icône de la modernité, hein.
Le téléphone
portable a failli pénétrer le marché parce que des entrepreneurs chinois avaient posé des antennes et distribué des téléphones un peu à tout le monde. Mais l'État éthiopien a tout coupé. Autre chose, c'est très difficile d'apprendre leur langue.
Mais attendez, parce que c'est un truc important, là, ce qu'ils viennent de dire. Là. Ils ont donc interdit, finalement, le cellulaire. Nous, on aurait tendance à dire, ah, mon Dieu, mais c'est dramatique. Finalement, ça peut peut-être leur permettre aussi de rester dans leur tradition
d'une certaine façon.
En 2015.
C'est ça. Parce qu'il faut dire une chose, ils ne se considèrent pas comme éthiopiens. Ils ne savent absolument pas qu'est-ce que c'est. Ouais. Ils sont complètement à l'écart.
Non, c'est ça.
C'est ça. Et ils organisent quelque chose, des dongas. Les dongas, c'est des combats de bâtons entre jeunes hommes. Mm-hmm. Et c'est organisé à chaque été avant la saison des pluies. Ça revêt une grande importance pour ce peuple habitué à côtoyer la violence d'abord pour se défendre d'une part. Puis ils acquièrent en se mutilant les rudiments de la lutte pour aider leur communauté à survivre. Puis évidemment aussi, il y a la question de conquérir les belles. Alentour, le meilleur combattant, le vainqueur, il va le porter sur des branches, porter sur les épaules de ses camarades et trouver une belle. Alors, ces tribus semi-nomades, on doit dire semi-nomades, sont parmi les dernières au monde à vivre de cette façon-là, qu'on met entre guillemets façon primitive.
Ouais, maintenant qu'ils ont des Kalachnikovs, ils sont plus si primitifs. Déjà.
C'est ça.
C'est ça, parce que moi, je reviens à l'affaire des cellulaires, le gouvernement qui empêche le cellulaire, qui n'empêche pas la Kalachnikov. Ouais, mais cela dit, si leur trésor, c'est leur bétail...
Ah, c'est pour se défendre, essentiellement.
Il faut qu'ils puissent se défendre.
C'est ça.
Alors, je pense que le fléau, ce serait plutôt l'alcool, finalement, que les Kalachnikov. Ma petite André, de quoi vous nous parlez juste après?
Oui, écoutez, moi, je vous ai raconté l'histoire de l'homme.
Eh bien, maintenant, je vais vous parler donc sur tous les fronts de guerre, puisque c'est toujours la guerre. Et je vais vous parler des animaux oui. sur les fronts de la guerre. Donc, moi, je vous disais que j'allais vous parler sur tous les fronts. Et c'est à partir d'un article qui a été écrit par deux auteurs, Fabien Gruyer et Hélène Matteau, dans Québec Science de août-septembre 2015. Alors, je disais que j'allais vous parler des animaux pendant les guerres.
Ah oui.
Parce qu'ils ont été intégrés à toutes les armées. Mmh. Et depuis très, très longtemps, on les a vraiment mis au service de l'effort de guerre. Ils ont joué des rôles souvent essentiels. Hein.
Ah oui, ah oui,
on parle
oui.
toujours de l'armement, on parle toujours des hommes, mais on devrait parler des animaux. Et cet article, il parle justement du rôle des animaux dans les guerres, dans les différentes guerres.
Ah, je suis contente
guerres.
que vous évoquiez ça.
Oui, c'est vraiment spécial. André. Regardez, pendant la Première Guerre mondiale, l'apogée de l'embrigadement massif des animaux dans les conflits humains pour en juger. 14 millions de chevaux et mulets. Bon, on parle de toutes les armées confondues. Hein?
Oui,
14
oui.
millions de chevaux et de mulets. 10 millions sont morts sur les champs de bataille.
Ouh.
Bon, quelles que soient les époques, quelles que soient les guerres, les animaux deviennent des soldats malgré eux. Et il ne faut pas oublier, en plus de leurs différents rôles, le rôle psychologique qu'ils assument. Parce que la guerre, ça crée des problèmes psychologiques, évidemment, oui. même pour les soldats qui sont là pour ça. Mais soutenir le moral des troupes, eh bien, les animaux souvent les ont aidés en apportant un réconfort affectif. Sachez que Hitler, il a décoré ses chiens
oui.
de la croix de fer.
Ah oui,
il faut le faire quand
ah
même.
Oui.
Hein.
Ah,
les Britanniques, on sait que les Britanniques aiment beaucoup les animaux, mais ils ont créé une distinction réservée aux animaux. Et même, il y a dessus une couronne de laurier et il y a le mot « for gallantry ». Et « we also serve », on serve aussi.
On sert aussi. Mmh.
La distinction en question, imaginez-vous, elle a été distribuée 65 fois à des chiens, des chevaux, des pigeons et même un chat. Et ce n'est pas seulement pendant les guerres, hein, parce que le dernier lauréat, c'était un chien de recherche qui a servi en Afghanistan en 2014.
Avez-vous d'autres exemples?
Oh, j'en ai toute une nomenclature. Alors, j'essayais de raccourcir, mais je peux pas. Alors, d'abord, je vais commencer quand même par les chiens parce que c'est l'animal qui est assez proche de nous. On les appelait donc les chiens auxiliaires. Ils ont été de toutes les armées, mm-hmm. que ce soit dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, plus récemment. Ils ont une foule de fonctions. Ils sont gardes du corps, ils sont estafettes, pisteurs, facteurs, renifleurs de mines. Je vous signale quand même que, en passage, au XXe siècle, ils en renifleront des millions. Ils sont poseurs de bombes, ils sont patrouilleurs, tireurs d'animaux, dératiseurs, même secouristes, on les appelle les chiens sanitaires. Et ces chiens soviétiques, entre 1941 et 1945, donc Deuxième Guerre mondiale, ils ont évacué 700 000 blessés.
Oh là là.
Les chiens ouais. hein. Alors, l'autre frère d'armes du guerrier, bien sûr, ce sont les chevaux. On a parlé de leur nombre. Ils tirent des chars, ils emportent à toute vitesse les guerriers de Gengis Khan, le fameux Gengis Khan. Hein.
Le terrible, le méchant.
Le terrible, le méchant. Et Guillaume II, par exemple, déclarait en août 1914, « Nous allons nous défendre jusqu'au dernier souffle de nos hommes et de nos chevaux.
Hein, » ah,
c'est
oui.
quand même un peu fort. Alors, j'ai envie de commencer chronologiquement, j'aime ça. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'évolution de l'Australopithèque.
Oui,
peut-être que je pensais que j'allais le dire facile, là, j'ai raté encore une fois.
Et mesdames et messieurs, je tiens à vous dire, pendant une demi-heure, juste avant l'entrée en ondes, je l'entendais, Australopithèque.
Australopithèque, non, c'est quand même pas vrai, mais quand même. Je m'étais quand même pratiquée, mais j'ai raté. C'est l'émotion de la première émission.
Mais oui.
Alors, donc, en 522 avant notre ère, pendant les guerres contre l'Égypte, les Perses catapulte des chats.
Quelle horreur.
Dans le camp de où ils s'en servent comme bouclier.
Mais pourquoi les chats?
Ben parce que donc, on est en guerre, c'est l'Égypte contre les Perses. Et les Égyptiens, pour eux, les Égyptiens, vous avez vu des dessins. Tout à l'heure, Michel nous parlait de dessins par ses enfants bergers.
The cat is very important.
Exactement. Les animaux sont sacrés. Et donc, les Égyptiens, ils préfèrent capituler plutôt que de laisser massacrer les chats.
Ah oui.
C'est quand même incroyable. Hein?
Oh là là.
En 390, on a tous entendu parler des fameuses oies sacrées du Capitole. Ah oui. Qui deviennent absolument essentielles puisqu'elles ont réussi à donner l'alerte quand les Gaulois, que nous sommes, n'est-ce pas, ou que nous étions, ont tenté une attaque surprise. Bon, Hannibal.
Oui, Hannibal, hein? Alors ça, c'est les éléphants, non?
C'est les éléphants, exactement. Oui. Ce sont eux qui sèment la terreur et qui font la légende, d'ailleurs, de Hannibal, puisque c'est grâce aux fameux éléphants qu'il a réussi à gagner ses...
Mais il n'y en avait que 38 ?
Il n'y en avait que 38, c'est ça. 38, 12 000 cavaliers et 38 éléphants seulement qui font fuir toute une armée, hein.
Ouais, mais c'est impressionnant, hein, de voir quand même 38 éléphants en même temps.
Ouais,
c'est un char d'assaut, hein.
Imaginez ça.
Même un tank, je pense qu'on aurait peur.
Ah oui.
Alors, j'ai d'autres exemples quand même. Il y en a un qui m'a complètement fasciné. Au 15e siècle, ce sont les chèvres torches. Là, c'était un seigneur albanais qui luttait contre les Ottomans. Et savez-vous ce qu'il a fait avec ces chèvres? Il leur a mis sur leurs cornes, imaginez sur leurs cornes, là, il a mis des torches, puis il les a lancées. Et du coup, l'armée en face, ils ont eu tellement peur parce qu'ils ont pensé que c'était l'armée qui était armée torches. Ah. Et ils ont pensé qu'ils avaient un nombre incroyable d'assaillants. En fait, ce n'était pas vrai du tout.
Elles sont devenues quoi, les chèvres?
Ah ben, je ne sais pas, ils ne disent pas dans l'article.
Méchoui.
Peut-être méchoui, peut-être méchoui. Bon, les pigeons voyageurs. Alors, vous savez qu'à l'occasion, je vous donne au passage des informations sur les fameux pigeons. C'est qu'ils peuvent parcourir 1000 km en une seule traite, en volant à 60 ou 100 km/h. Alors, bien sûr, depuis des milliers d'années, même 3000 ans.
Ça veut dire qu'on a trouvé un animal qui peut faire plus que le marathon.
Mais ce n'est pas un prédateur. Ce n'est pas un prédateur, par exemple. On parlait de prédateur tout à l'heure, de pigeon.
C'est un prédateur de vers de terre, le pigeon.
D'accord. Mais par rapport à l'homme, il ne faisait pas trop peur quand même, le pigeon. Au contraire, il nous sert, hein, parce que pendant les deux dernières guerres mondiales, ils ont fait des reconnaissances de territoire. Alors, savez-vous un truc qui est quand même... Moi, je ne savais pas ça du tout, mais Michel peut-être, n'est-ce pas, le savait.
Dans sa grande...
Notre trivial homme. Et ce qu'il faisait, c'est que... on attachait des appareils photo miniatures à déclenchement automatique sur leur ventre pour prendre une photo toutes les 20 secondes.
Ah bah c'est ça. Alors, c'était les drones.
Drones de l'époque, exactement. Hitler comptait 50 000 pigeons et c'était 800 hommes qui s'en occupaient quand même. Hein. Donc ils ont servi partout et même plus récemment encore. Hein. Même maintenant qu'on a des drones, parce qu'ils ont servi pendant les guerres de Corée, les guerres d'Algérie, les drones n'existaient pas encore, même la guerre du Golfe. Alors, un autre truc, en 1942, les Suédois, ils envoient au devant des sous-marins pour les faire exploser des phoques.
Oh non!
Puis il y avait une photo hein, dans l'article. Hein.
Ah, oui.
On voit la photo avec le museau du phoque qui tient la mine sur son front.
Okay.
Et maintenant, on se sert quand même d'eux, mais de façon moins brutale. Ils servent juste pour le repérage des mines. Non, là, la photo, là, ça m'a donné comme un haut le cœur.
Hein. Je comprends.
En parlant de sous-marins, pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques avaient dressé des mouettes au repérage de sous-marins. Savez-vous comment ils faisaient?
Non.
Bon, alors pour faire ça, ils font émerger leurs sous-marins en même temps qu'ils lancent d'énormes quantités de pain. Alors évidemment, les mouettes vont se jeter dessus, ce qui fait qu'après... comme elles ont été habituées à ce genre de comportement. Chaque fois que d'en haut, elles voient se dessiner un sous-marin dans les profondeurs, elles foncent dessus, ce qui fait qu'on les repère.
Ah bah oui, elles ont été conditionnées comme ça.
Exactement. Alors, donc, ce sont aussi ceux dont les soldats partent comme deux compagnons, ce sont les ânes, les mulets, les mules. Ouais. Ils sont au service de tout, leur taille, leur robustesse.
J'ai entendu parler de moutons aussi. C'était quoi ça?
Ouais, ça c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942.
Ouais.
En Normandie, il y a des troupeaux de moutons sur le littoral qu'on envoyait, un petit peu comme les chèvres là, pour vérifier au péril de leur vie que le terrain n'était pas miné. Alors là, peut-être qu'ils ont fait du méchoui avec après, parce que dans l'article, ils disaient que des centaines de moutons ont sauté, évidemment.
Bien sûr.
Alors, donc voilà, les animaux, on ne les voit plus du même œil maintenant. On ne pourrait plus imaginer des phoques qui vont lancer des mines.
Non, ça c'est vrai, mais rappelez-nous qui a écrit cet article.
Ça c'était un article que j'ai extrait de Québec Science du mois de août et septembre 2015, qui est intitulé « Sur tous les fronts », n'est-ce pas, on en a parlé, écrit par Fabien Gruyer et Madeleine Matteau.
Très intéressant, merci beaucoup André.
J'ai un petit chien, il s'appelle Reviens. J'ai un petit chat, il s'appelle Parpa. J'ai un koala, il s'appelle Reste avec moi. J'ai un caméléon, je l'appelle par ton nom. J'ai un bonobo, je l'appelle comme ton numéro. J'ai un crocodile, je l'appelle comme ton mobile. Depuis que tu es parti, je perds les pédales. J'ai besoin de chaleur animale pour tout oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai une souris, elle s'appelle, je t'en supplie. Et un épagneul, il s'appelle, me laisse pas seul. J'ai un lapin, il s'appelle, j'y comprends rien. Depuis que tu es parti, je perds les pédales. J'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai une gazelle, elle s'appelle, faut pas que je t'appelle. Et un perroquet qui me le répète sans arrêt. J'ai un éléphanto, il s'appelle Faux, que j'arrête avec les animaux.
Excellent choix de mon ami Mathieu Tessier, avec Thomas Jensen qui chantait... Oui, c'est vrai, je devrais dire Thomas, on ne sait jamais. Hein, parce que là, il y en a qui disent Thomas Fersen, pourquoi Thomas? Il est français, je ne sais pas trop. Mais lui, il est un mélange de toutes sortes de cultures. Alors peut-être qu'on devrait dire Thomas comme on devrait dire Thomas Mulcair. Hein. Ah, du coup, il a... maintenant, c'est pour ça qu'il a mis Tom.
Il a simplifié.
Comment on dit ananas ou anana?
C'était
une grande discussion de fin de semaine, d'ailleurs.
Alors, mes amis, je suis toujours en compagnie de Michel et André. Est-ce que nous avons quelques petites brèves?
Moi, j'ai une information. Là, quand Michel parlait tout à l'heure des moustiques qu'il fallait éloigner là, de ses enfants bergers, c'est une chemise qui fait fuir les moustiques. Bon, on pouvait mettre des produits, mais là, ils ont vraiment créé un vêtement imprégné d'un produit qui était, je ne sais pas si on peut le dire, c'est Columbia, je pense, qui fait ça, et qui propose, qui intègre un produit qui va vraiment repousser les moustiques.
À la citronnelle
non, non, c'est pas la citronnelle, ça s'appelle la permétrine. C'est un composé chimique proche de celui rencontré dans certaines fleurs, incolore, inodore. Je ne connais
pas du tout.
Et ce qui est intéressant, c'est que même après 70 lavages, il reste efficace.
Ah oui.
Parce que quand on se met les produits insecticides, ça ne dure pas longtemps.
Oui, mais alors dis donc, bonjour la chimie.
Bah, bonjour la chimie.
Si ça reste après 70 lavages.
Oui, il ne parle pas d'allergie, de réaction allergène.
Alors, André.
Michel.
Ça, je savais que ça allait m'arriver.
D'accord. J'ai un prénom de toute façon.
Non, pas du tout. Je l'ai toujours appelé André, déjà avant, quand on était
sous. C'est
vrai,
c'est pas la première fois.
Ah oui. Bon, mais enfin, c'est vrai que ça m'aide pas. Mais quand même.
D'accord.
Alors, Michel.
Vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire un périple dans le sud. Différentes périodes. Ben, le sud actuellement est envahi par des algues brunes. Et les touristes en vacances dans le sud sont nombreux à s'être laissés surprendre par une quantité vraiment surprenante. Je vous parle entre autres choses de la Riviera Maya au Mexique, de la République dominicaine. Alors, même si la présence de ces algues sur les plages de sable fin peut être d'une odeur pestilentielle, ça sent très mauvais, il faut savoir qu'elles ne sont pas dangereuses pour la santé ni pour le milieu. Ah ben évidemment, les membres de l'industrie touristique, y compris les complexes hôteliers, suivent la situation de près et déploient des efforts pour nettoyer les plages. Apparemment, il n'y en a pas à Cuba actuellement. Et les voyagistes ne remboursent pas les gens parce que c'est à nous... Non, mais en fait, c'est à nous de se renseigner avant de partir. C'est le même phénomène que si vous partez en période des ouragans. Oui. Devriez le savoir. Ouais, donc, envahi actuellement, est-ce que ça va être la même chose pour le reste de l'année? On ne sait pas.
Écoutez, j'ai envie de vous parler d'un truc que je trouve assez extraordinaire. Vous connaissez cette maladie qui s'appelle la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Bien sûr, oui.
Bon, alors les symptômes sont assez terribles. Diminution de la sensibilité au contraste, apparition d'une tache sombre centrale qui entraîne une perte progressive de la vision, tout en gardant intacte la vision périphérique. Hein, ça, c'est quand même intéressant. Oui. Et c'est la principale perte de vision chez les personnes de 65 ans et plus. On vient de démontrer une étude sur des animaux cobayes par des chercheurs américains qui viennent démontrer qu'une injection de cellules souches, les fameuses cellules souches qui servent à tant de choses, donc une injection de cellules souches dans l'œil qui est touché, ça va permettre de bénéficier de 60 années de vision supplémentaire.
Oh, c'est merveilleux ça, hein?
Voilà, alors comment ça se passe? C'est que concrètement, les cellules saines, les cellules souches, migrent vers la rétine et forment une couche protectrice qui empêche la progression de la dégénérescence des cellules de la rétine qui permettent la vision.
Oh.
Donc, il faut quand même préciser que une aide optique et de rééducation sont les seules qui peuvent être proposées aux patients, mais elles ne réparent pas les lésions déjà constatées sur l'œil. Voilà.
Je vous rappelle que si vous êtes des habitués des émissions Kiosque Magazine et au quotidien, là vous vous demandez un petit peu ce qui se passe, eh bien je vais vous mettre tout de suite au parfum. D'abord, je vais vous saluer. Oui, c'est toujours Clotilde de Saye qui vous accompagne le matin, mais pendant 3 heures plutôt que 2, et surtout une Clotilde de Saye qui n'est plus toute seule, qui a autour d'elle les voix de service et des gens qui vont venir pour nous informer, parce que moi-même j'en apprends, je vais en apprendre autant que vous. On va vous instruire. sourire, on va vous faire rire, on va vous détendre, si je, je l'espère, mais aussi, bien évidemment, on aborde des sujets d'actualité, du moins ça, c'est mon rôle. Lorsque je reviens dans quelques minutes, on va aller notamment en actualité internationale, parler notamment de la crise des réfugiés, et puis on parlera d'un bonhomme formidable, parce qu'on en parle beaucoup dans les journaux ce matin, dans la presse et dans Le Devoir notamment, c'est le père Benoît Lacroix, dont on a célébré le 100e anniversaire.